France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Dans quelques heures, peut-être serez-vous comme moi en terrasse ou chez vous, seul ou accompagné, à vous ouvrir une petite canette de bière, à vous déboucher une bonne bouteille, à déguster ces premières gorgées alcoolisées annonçant la fin de semaine. Ou peut-être carrément serez-vous là à vous enivrer, vous saouler, vous la coller, vous mettre une mine, une caisse, une murge, une cuite, voire une tourte. Après tout, peu importe l'expression et la manière, le résultat sera le même. Une gueule de bois infâme qui, même légère, vous rend coupable d'avoir dépassé les bornes. Pourquoi ce verre de trop? Pourquoi ce verre tout court? Qui donc a inventé la gueule de bois? Et d'ailleurs, à quand remonte la première gueule de bois?
À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants.
Bonjour Mathieu Lecoutre.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes docteur et agrégé en histoire, enseignant en CPGE à Lyon, chercheur associé au LARA et historien des buveurs. Alors on vous doit plusieurs ouvrages hein, sur l'ivresse, j'en cite deux notamment, Le goût de l'ivresse boire en France depuis le Moyen-Âge, 5e, 21e siècle, c'est paru aux éditions Belin. Ivresse et ivrognerie dans la France moderne, coédition presse universitaire François Rabelais, presse universitaire de Rennes. Alors comme on l'a entendu dans cette archive de 1956, la fête est finie, plus de gueule de bois pour les enfants. Mais avant d'en arriver là, quand apparaît véritablement l'ivresse historiquement et même la gueule de bois, Mathieu Lecoutre?
Alors l'ivresse historiquement, c'est une large question que vous posez. Il y a, d'après les recherches des archéologues, l'invention du vin par les premiers hommes en Orient vers 6000 avant Jésus-Christ. Donc on peut penser qu'à partir de cette date-là, ont dû survenir les premières gueules de bois, les premières ivresses, puis premières gueules de bois. Ça, c'est pour l'histoire, pour la culture et les mythes. En fait, on peut remonter à Noé. Noé, donc un patriarche de la Bible, qui, souvenez-vous, après le déluge autour du mont Ararat, eh bien, se met à planter une plante qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas les conséquences. Donc c'est la vigne, et donc la Bible raconte que Noé, bien malgré lui, s'est enivré, qu'il a connu une gueule de bois qui a d'ailleurs eu des conséquences, donc d'après la Bible, très très néfastes, puisque enivré, il est à moitié dévêtu dans sa tente. Et l'un de ses fils vient le voir, il s'appelle Cham, et plutôt que de couvrir les parties génitales de son père, visibles à ce moment-là, il appelle ses deux frères, Sem et Japhet. Sem et Japhet viennent et décemment recouvrent les parties génitales du père, ce que n'a pas fait Cham. Et d'après la Bible, les enfants de Cham seront maudits de ce mauvais geste, puisque ça a trait à l'impudicité. Voilà.
Donc c'est-à-dire de l'avoir couvert, en fait, d'avoir voulu couvrir leur père qui était nu à cause des effets de l'alcool.
Ça montre la moralité de ses deux fils et l'immoralité de l'autre. Ouais.
Mais alors pourquoi c'est les deux fils qui sont maudits alors que c'est pourtant...
Non, pas du tout, c'est Cham qui est maudit.
Voilà. Ah,
c'est
oui.
Celui qui n'a pas couvert les parties génitales de son père. Et une tradition de l'église occidentale dit que les descendants de Cham sont les Africains. Voilà, donc il y a des explications qu'on veut territoriales finalement, des conséquences territoriales qui sont mobilisées d'ailleurs à l'époque de la colonisation pour justifier tout ça.
Donc ce qui est intéressant Mathieu Lecoutre, c'est que l'ivresse est tout de suite apparue avec presque sa condamnation. C'est-à-dire il y a l'envers qui est le mauvais effet de l'alcool. Il y a d'une part l'ivresse qui peut être joyeuse ou plus ou moins importante, mais enfin l'ivresse qui est un moment de plaisir et on ne l'a jamais pensé indépendamment de ses effets néfastes, que ce soit de la gueule de bois individuelle ou au contraire une dimension morale culpabilisante.
Oui, et puis même des conséquences néfastes que ça peut avoir, ne serait-ce que la violence, en fait. Mmh. Donc, en fait, c'est lié à la nature même enfin, à l'action même de l'éthanol dans le corps humain, puisqu'il génère à la fois la sécrétion de dopamine et d'endorphine, c'est-à-dire des molécules du plaisir, ce qui incite certains buveurs à y revenir, mais en même temps, il permet la sécrétion de sérotonine qui favorise la violence, enfin, le mauvais contrôle de ses humeurs. Ça, c'est pour la violence, mais également l'ivresse, c'est la perte de la raison, la perte de ses sens, et donc des actes incontrôlés qui peuvent être commis. On en trouve d'autres que ceux de Noé dans la Bible, d'ailleurs.
Alors justement, quel autre type de figure, parce que ça c'est aussi une autre chose à dire, non seulement l'ivresse n'a jamais été pensée indépendamment de ses effets néfastes, mais l'ivresse n'a jamais été pensée indépendamment de figures d'ivrogne, de comportements d'ivrogne.
Tout à fait. Alors oui, alors dans la Bible en fait, on a également Lot, qui est le neveu d'Abraham, toujours dans l'Ancien Testament, qui lors de l'épisode de Sodome s'enfuit. Enfin, il apprend que la ville de Sodome va être détruite, donc il s'enfuit avec ses deux filles et son épouse, avec l'interdiction de se retourner. D'après la Bible, son épouse se retourne, elle est transformée en statue de sel. Donc Lot se retrouve tout seul avec ses deux filles, et les deux filles sont persuadées que l'humanité a été détruite, et alors que les deux filles veulent une descendance. Et donc là, les deux filles, d'après la Bible, vont enivrer leur père, qui ne connaît pas non plus les conséquences du vin sur le corps, et avoir des relations sexuelles, donc deux nuits de suite, une nuit pour chaque fille, et avoir des descendants. Et donc les descendants, idem, seront maudits. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, lorsque l'on est au Moyen-Âge ou à l'époque moderne en France, et que l'on a comme ouvrage, l'un des ouvrages de référence, c'est la Bible, en fait, on s'aperçoit que des individus qui sont quand même censés être au paradis ont connu l'ivresse. Et donc là, l'Église, dès le départ, est obligée d'essayer de comprendre quelles ivresses seraient acceptables ou excusables et quelles ivresses seraient lourdement condamnables.
Donc ça veut dire qu'on doit forcément penser la notion d'ivresse aussi en rapport avec des limites. Oui. C'est-à-dire boire dans une certaine mesure. En fait, l'ivresse, alors j'ajoute un troisième point, n'a jamais été pensée indépendamment de la modération.
Exactement. Et c'est un gros problème parce que la modération, la médiocritas, on ne sait pas la chiffrer.
C'est-à-dire la chiffrer, vous voulez dire en termes de quantité d'alcool?
Exactement. Ah oui. Exactement. Jusqu'à l'époque contemporaine. Vous savez, enfin, il faut attendre 1858 pour que l'on découvre la structure chimique de l'éthanol. Oui. Et donc on ne peut pas dire 0,5 grammes d'alcool dans le sang au Moyen-Âge. Évidemment, c'est impensable. Donc en fait, il y a des limites. La limite qui est donnée par la Sorbonne, hein, par les théologiens, c'est ne pas perdre la raison. Ça, c'est la première limite. Sauf que ne pas perdre la raison, ça dépend de chacun. Et puis, évidemment, quand on boit et qu'on est à la limite de l'ivresse ou qu'on a véritablement basculé vers l'ivresse, souvent, on n'a pas tendance à dire qu'on est ivre. C'est-à-dire que le buveur qui se fait accuser d'ivresse répond souvent qu'il voit très bien, qu'il parle très bien, et que finalement, l'ivrogne, c'est toujours l'autre.
Oui, et puis c'est toujours le problème de quand on boit. De toute façon, c'est le verre de trop, sinon il n'y aurait pas de verre de trop.
Exactement, oui. Donc, le contrôle de ses sens, voilà. Donc souvent, on s'en aperçoit pas quand on boit. Mm-hmm. C'est logique puisqu'on a perdu sa raison, hein. Donc ça vient des autres, hein, qui peuvent signaler l'ivresse. Mais encore faut-il que les autres souhaitent signaler l'ivresse, parce que l'ivresse dans la culture occidentale telle qu'elle se construit a une forte dimension. Alors vous parliez de plaisir, convivialité, une dimension de sociabilité.
Donc l'ivresse jusque-là oscillait sans cesse entre une condamnation et une valorisation, ce qui explique sa place problématique dans la Bible, à savoir à la fois condamné, j'imagine, comme un péché proche de la gourmandise, même peut-être donnant
c'est
lieu
de
à la luxure.
Oui, c'est de la gourmandise, voilà. C'est de la gourmandise liquide, en fait.
La gourmandise liquide, parfait. Ça, c'est une expression qui me plaît beaucoup. Et en même temps, donc c'est un vice qu'on retrouve dans un espace qui devrait être pur, purifié, à savoir le paradis. Alors comment s'en est sortie la Bible face à ça?
Dans l'espace purifié, oui, mais l'espace qui devrait être purifié, c'est même le corps humain, puisque les théologiens, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, puis au XIXe siècle, racontent que le corps humain, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est le réceptacle du Saint-Esprit, puisque d'après la Bible, Dieu a fait l'homme à son image, et Jésus, c'est Dieu incarné. Donc ça veut dire que cette nature humaine doit être purifiée. Alors évidemment, en ingérant une boisson qui vous fait, c'est comme ça qu'on pense notamment au 16e, 17e siècle, parfois ressembler à un singe, donc à un animal, à avoir des attitudes animales, ça vous éloigne forcément du paradis.
Quand on est historien comme vous, je pourrais dire de l'ivresse, hein, vous vous présentez comme historien des buveurs. Alors déjà, ma première question, c'est comment on en vient à travailler là-dessus ?
En fait, j'ai regardé autour de moi. Tout simplement, puisque un grand historien, Antoine Pro, explique que toute histoire est contemporaine. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, autour de 2008-2010, je me suis questionné sur ce que je pensais être une sorte de tournant qu'on était en train de vivre. Et mes recherches ont confirmé cela. C'est-à-dire que depuis les années 1950, 60, 70, on est dans une sorte de tournant culturel, anthropologique en Occident et particulièrement en France par rapport à la relation aux boissons alcoolisées. C'est-à-dire que avant les années 1950, 60, 70, on l'a vu avec le reportage là, l'ivresse, enfin et en tout cas la consommation de boissons alcoolisées, mais l'ivresse arrive rapidement après, n'était pas autant attaquée qu'ensuite, qu'après. Et surtout, la population française ne semblait pas vraiment réceptive à tous les discours moralisateurs, médicaux, leur demandant de réduire leur consommation. Et donc moi, j'ai, en regardant autour de moi, j'ai senti finalement une sorte d'opposition entre les anciennes générations ou l'ancienne culture et puis la culture du 21e siècle actuelle.
Donc ce qui est frappant quand même, vous avez dû vous en rendre compte, c'est que l'ivresse, elle a toujours été condamnée moralement. Donc ce qui a changé dans notre rapport à l'ivresse, alors il y a forcément la consommation, les pratiques, mais c'est plutôt la réception de cette condamnation ou pas, le fait qu'on intériorise des normes de modération ou pas.
Oui, alors elle a toujours été condamnée moralement, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a toujours des moralisateurs qui vont condamner, mais parallèlement, d'une manière concomitante, on a toujours des individus qui vont vanter l'ivresse. Alors pas forcément l'ivresse lourde qui se finit en coma éthylique, ça non, on peut pas la vanter. En revanche, une ivresse légère, festive, collective, cyclique, c'est-à-dire qui reviennent lors de fêtes, ça c'est régulièrement vanté et particulièrement dans certaines religions. Dans le judaïsme, la fête de Pourim, c'est une fête durant laquelle le juif a le droit à un excès de boissons enivrantes. Et régulièrement au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, on a des curés qui sont relativement tolérants par rapport à la consommation de vin, essentiellement de leurs ouailles. Donc en fait, on a toujours, quand on est buveur, on a toujours, en fait, on peut se positionner par rapport à ce que l'on souhaite entendre. Voilà. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine médical.
Donc c'est-à-dire, par exemple, il y a des médecins qui vont le promouvoir parfois comme un verre, ça fait pas de mal, alors que d'autres vont dire, dès qu'il y a une consommation d'alcool, c'est dangereux pour le corps.
Oui, et même plus qu'un verre. En fait, dans mes recherches, notamment au XVIe siècle, j'ai découvert que certains médecins très réputés de Paris, notamment Jacques Dubois, qui se fait appeler Silvius, selon la mode humaniste de l'époque, et qui, en s'appuyant sur sa lecture d'Hippocrate et de Galien, donc le grec et le romain de l'Antiquité, eh bien justifie une ivresse mensuelle. En expliquant que selon la compréhension physiologique du corps humain de l'époque, c'est-à-dire le corps humain est rempli de quatre liquides physiologiques qu'on appelle les humeurs. C'est la fameuse médecine humorale. Eh bien, pour que le corps humain soit en bonne santé, il faut que les humeurs circulent correctement et qu'il y ait un bel équilibre. Si des humeurs sont en excès ou si elles stagnent, on est malade. C'est comme ça qu'on comprend la maladie. Eh bien, ce médecin Jacques Dubois, il explique que régulièrement, il faut... Alors, on dirait, en termes contemporains, relancer la machine. C'est-à-dire qu'il y a des humeurs un peu lourdes qui stagnent dans l'estomac. Il faut les redynamiser en réinjectant des éléments qui vont le chauffer et redonner sa circulation. Et il explique que le vin fait partie de ça. Il va même au-delà, il dit que si on peut aller jusqu'à vomir, c'est-à-dire exclure tout ce qui stagne et vous rend malade, eh bien c'est fortement recommandé. Et cet enivrement mensuel, d'après l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert au milieu du XVIIIe siècle, est toujours vanté dans certains endroits des campagnes françaises au milieu du XVIIIe siècle.
Eh bien, figurez-vous que le vin est encore promu en avril 1974. C'est une archive du docteur Maury au micro de Stéphane Collaro dans l'émission La Lorgnette.
Alors, je vous fais l'ordonnance. Voyez-vous, je vous conseille pour le foie votre Bourgogne de Verragin. Pour les reins, le muscadet ou un vin d'Alsace, 3 verres par jour, au cours de la journée.
Et je vous faites une feuille de sécurité sociale.
Ben oui, malheureusement, ce n'est pas encore remboursé. Il faudrait pour ça voir le ministre de la Santé publique et lui demander pourquoi. Parce que le vin n'est pas considéré officiellement comme un remède, alors qu'il l'est.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi, je pense que ça devrait être considéré comme un remède et que ça devrait être prescrit médicalement, étant donné les vertus thérapeutiques que l'on trouve dans le vin.
Donc la sécurité sociale devrait
normalement le rembourser.
C'est honteux.
Ce qui me paraît tout à fait normal. D'ailleurs, remarquez, en Angleterre, on rembourse le whisky pour les malades. Il n'y a pas de raison qu'en France, pays du vin, on ne rembourse pas également un vin prescrit par le médecin. Il y aurait d'ailleurs beaucoup moins d'alcooliques à ce moment-là.
C'est un scandale.
C'est un scandale. Et oui, en 1974, c'est un scandale que le vin ne soit pas remboursé par la sécurité sociale. Finalement, Mathieu Lecoutre, effectivement, il y a un vrai tournant, en fait, dans ces années entre 50 et 70, où on entend en 56, on l'a entendu au tout début, il y a l'interdiction de boire du vin dans les cantines pour les enfants de moins de 14 ans, hein, il faut préciser. Mais en 74, on continue quand même à penser que le vin, eh ben, ça fait du bien. C'est thérapeutique, c'est médical, c'est même nécessaire, on pourrait dire, Mathieu Lecoutre.
Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que quand on entend cette archive-là, il y a énormément de choses qui nous surprennent. Mais notamment parce que les mots n'ont plus le même sens. Lorsque le médecin ou Stéphane Collard, j'ai pas bien distingué, parle d'alcoolique, d'alcoolisme, etc.
Oui.
En fait, ça a un sens qui vient du 19e siècle. Au 19e siècle, est alcoolique quelqu'un qui boit en excès des boissons distillées. C'est-à-dire des eaux de vie, c'est-à-dire de l'absinthe, c'est-à-dire du pastis, etc. Est ivrogne quelqu'un qui boit en excès du vin, c'est-à-dire du vin ou de la bière ou du cidre, etc. C'est-à-dire des boissons qui fermentent naturellement. Alors pour comprendre ça, il faut remonter au milieu du 19e siècle, lorsque la médecine moderne autour de Pasteur se constitue. Pasteur, en 1866, est homme de son temps, et il explique que un travailleur de force, c'est-à-dire un ouvrier, doit boire au moins 1 litre de vin par jour. Alors pour nous, c'est assez incroyable d'entendre cela, sauf que le vin, c'est la vitalité. Ça permet enfin, en tout cas, on croit que c'est la vitalité,
oui.
Évidemment. Ça permet de dynamiser, de rendre fort. Bon, il y a tout un message christique derrière cela. On y reviendra, si vous voulez, tout à l'heure.
Oui.
Et donc, par la suite, dans les écoles, puisqu'on va retrouver nos écoles primaires notamment, à partir des années 1890, fleurissent dans les salles de classe des cartes murales que l'on peut trouver encore dans les brocantes, réalisées par le docteur Galtier Boissière, intitulées « L'alcool, voilà l'ennemi ». Et donc j'invite, enfin, les auditeurs à après l'émission à regarder sur internet, taper l'alcool, voilà l'ennemi. Vous verrez quelque chose de fascinant. La carte murale est séparée en deux, et donc c'était pour les petits enfants de 7 ans, 8 ans, etc. À gauche, les bonnes boissons qu'on appelait les boissons hygiéniques, et à droite, les mauvaises boissons, les boissons distillées et l'alcool, avec l'évolution physique de l'individu qui boit du vin, et à droite de celui qui boit de l'eau de vie. Et vous voyez que celui qui boit du vin est en bonne santé, tout se passe bien parce que c'est une boisson hygiénique. Parce que c'est naturel, c'est fermenté naturellement. Mmh. Et à droite, c'est la déchéance, le crime organisé, etc. Et voilà ce qu'on a appris dans la Troisième République quand on était enfant à l'école. Et ça dure jusqu'en 1956 finalement.
Mais et même jusque, est-ce qu'on peut, jusqu'à aujourd'hui, en fait.
Alors,
c'est-à-dire que cette valorisation du vin, elle est très actuelle encore.
Exactement. Et donc ça c'est intéressant parce que on pourrait penser que ça c'était la France d'avant, hein, et qu'il y a une autre France. Bon, et en fait il y a toujours une sorte d'inertie, c'est toujours une forme d'inertie. Et puis on a notamment la tête de notre pays, Emmanuel Macron, qui s'est affiché ouvertement gastronome. apprenti œnologue, aimant le vin. Il le dit notamment lors d'une visite au salon de l'agriculture, où alors qu'il était président et dans les milieux un peu de connaisseurs, on savait qu'était en train de s'organiser autour de Agnès Buzyn une sorte de loi pour essayer de réduire la consommation d'alcool dans le pays, de taxer davantage le vin. Et finalement, c'est Agnès Buzyn qui a perdu, et notamment parce que Emmanuel Macron a dit qu'il fallait arrêter d'emmerder les Français avec cela.
Donc, d'emmerder les Français, donc là, il faut encore préciser, parce que se rejoue encore cette répartition, entre cette hiérarchisation entre bon alcool et mauvais alcool. C'est-à-dire que c'est vraiment le vin en particulier. C'est-à-dire que là, il faut dire que c'est que Emmanuel Macron avait en tête le vin parce que ça faisait partie d'une culture, d'un savoir-vivre. Il faut accompagner tel plat avec tel vin. On pourrait dire quand même que là, il faut particulariser le vin.
Oui, tout à fait. En fait, bon, c'est Roland Barthes, hein, en 1957, qui dit que le vin, c'est une boisson totem dans notre pays. Alors, 1957, c'est pas anodin, justement. Il écrit cela parce que on est en train de vivre avec Pierre Mendès France un tournant avec une critique de la consommation un peu excessive du vin. Donc, c'est pour ça qu'il écrit cela. Et surtout, à la suite de cette citation, une boisson totem, il explique que en France, si jamais quelqu'un ne boit pas de vin, eh ben, il est sommé mais de se justifier de son refus de boire du vin. Et alors là, pour comprendre tout cela, mais en fait, il faut retracer l'histoire du vin. Mais le vin avec les grands crus qui deviennent un reflet de la France, ça date de la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Et puis, ça s'affirme au XIXe siècle et au XXe siècle, évidemment.
Mais alors ça, est-ce qu'on peut dire que c'est une spécificité française, comme on l'entend tout le temps sur le vin, c'est la culture française, ou est-ce que c'est vraiment le vin en général, en fait, qui est toujours perçu comme un alcool moindre, presque proche de l'eau parfois, et puis aussi parce que effectivement on peut hériter d'une culture où le vin c'était le sang du Christ, donc il y a une forme de, il faut sauver le vin, vous voyez.
Oui, alors il y a plein de choses derrière ça. Et alors, effectivement, le vin, de toute façon, titre moins que des eaux de vie. Hein. Donc évidemment, il y a moins d'éthanol. Après, évidemment, tout dépend de la quantité de vin qu'on ingère. Alors, est-ce que c'est une spécificité française? Si vous demandez à un Anglais, par exemple, il va dire oui, ça c'est plus une spécificité française, parce que l'Angleterre s'est construite autour, enfin, la consommation de boissons alcoolisées en Angleterre s'est construite autour d'autres repères. Néanmoins, on a d'autres pays en Europe qui ont une culture de la consommation du vin qui est très importante. Italie, par exemple. En revanche, la particularité française, c'est que, je vous dis, au XVIIIe siècle et puis XIXe siècle, les plus grands crus, hein, en quantité, etc., sont français. Et donc, ça devient véritablement, pour l'Europe et puis après pour le monde, l'un des reflets de la manière de consommer à la française. Et vous avez parallèlement des autorités, des pouvoirs publics qui favorise la consommation de vin, enfin en tout cas qui ne limite pas. Et Emmanuel Macron, pour revenir à lui, l'a dit très clairement en fait. Hein. Le monde viticole et alcoolier, c'est l'un des fleurons de l'économie française en termes d'exportation. Et donc, il a dit clairement, il ne s'agit pas de briser ce fleuron de l'économie française.
Donc quand on a une gueule de bois au vin, finalement, c'est une manière à la fois de participer à cette économie, mais on peut dire aussi qu'on dépasse largement en fait le cadre d'une gueule de bois individuelle. Alors, ou festive. Ça veut dire que véritablement, en fait, on est le fruit, le produit de pratiques économiques et historiques.
Oui, alors ce serait une sorte d'habitus. Après, on a un libre arbitre, évidemment. Mais on participe à l'économie, oui et non. Évidemment, on a consommé, mais certains alcoolologues réfléchissent au coût social de l'ivresse aujourd'hui en France. Et alors, le coût social, c'est compliqué à évaluer, c'est-à-dire toutes les conséquences négatives, et je ne parle pas seulement de la gueule de bois, conséquences négatives en termes de productivité ou en termes de retard au travail, en termes d'efficacité ou d'inefficacité au travail, à la suite d'apéros, à la suite de consommation de vin, de bière ou autre, lors d'un déjeuner, le midi. midi, etc. Et si on prend en compte ce coût social plus le coût médical de cette alcoolodépendance, comme on dit aujourd'hui, les aspects économiques négatifs sont largement plus, enfin, semblent être largement plus importants que les aspects strictement positifs pour l'économie française. Enfin, grosso modo, le coût social et médical de la consommation de boissons alcoolisées est évalué par certains à 120 milliards d'euros par an, alors que le chiffre d'affaires du monde viticole et alcoolier serait autour de 22, 23, 24 milliards.
Ah oui, donc c'est pas du tout égalitaire, pour le coup, ça se compense pas
voilà.
du tout.
Mais ça, c'est en tenant compte de ce fameux coût social. En fait, si on est donc qui est difficile à évaluer finalement. Si on ne tient compte entre guillemets que du coût hospitalier, enfin des hospitalisations et donc là véritablement des ivresses sévères, plus les cirrhoses, les cancers, toutes les démences, les psychoses, etc. Là, on est autour de d'un coût autour de 8-9 milliards. Voilà, d'euros par an.
Donc
vous voyez, dans ce cas-là, bon, le secteur alcoolier et viticole est supérieur. Et puis, il y a plus de 500 000 emplois également dans ce secteur alcoolier et viticole en France.
Donc, c'est quand même toute cette question quand même de l'alcool, de la consommation d'alcool, c'est quand même une question assez floue parce que en fonction des époques, on va plus ou moins condamner cette consommation-là en fonction de limites très différentes, à des moments très différents de l'année, aussi en fonction des politiques qu'on va avoir, on l'entend, en fonction des alcools consommés. Et puis, il y a aussi un problème de terme, effectivement. Hein, vous l'avez dit, l'alcoolisme dans les années 70, c'était pas pareil que l'alcoolisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, n'était pas pareil qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la condamnation de l'alcoolisme de certains vins, certains alcools en particulier, alors que d'autres sont acceptés. Comment on distingue l'alcoolodépendance de l'alcoolisme de l'ivresse? Est-ce que, historiquement, d'ailleurs, ça a un sens de parler de notions qui apparaissent à des moments différents?
Oui, puisqu'on les utilise encore aujourd'hui. Alors, pour simplifier les choses, ivresse, c'est le terme ancien. L'ivresse qui, d'une manière répétée, donne l'ivrogne. Voilà. Mmh. Et donc le terme ancien, parce que de toute façon, avant, il n'y avait pas d'eau de vie, il n'y avait pas d'alcool distillé. Enfin, ça commence au 12e, 13e siècle, mais c'est produit de manière un peu plus importante, pas industrielle, mais quasi, à partir du 17e, 18e, et puis surtout 19e siècle. Donc l'ivresse au départ. L'alcoolisme, ça date de 1849. C'est inventé par un médecin et qui a une vision donc médicale mais également sociale du buveur alcoolique. C'est-à-dire que précédemment l'ivresse avait une dimension alors je parle de la majorité des Français. Pour la majorité des Français, avait une dimension qui n'était pas totalement négative. Jean-Jacques Rousseau, par exemple, au XVIIIe siècle, qui n'est pas le philosophe des Lumières le plus caustique, le plus amusant, on aurait plutôt pensé à Voltaire, eh bien explique que l'ivresse, l'ivrognerie, c'est pas bien grave. Pour quelques excès qu'elle provoque dans la société, elle crée plus de 100 attachements durables. Vous voyez, pour lui, ça crée du lien social. Ça, c'est la vision qui domine. Et puis, à partir du milieu du 19e siècle, on a une vision plus négative de l'alcoolique qu'on commence à associer à des catégories sociales dangereuses. Et on a peur de la dégénérescence. Voilà. Donc on est dans un caractère qui se veut un peu pseudo-scientifique. Enfin, approche qui se veut un petit peu plus pseudo-scientifique.
Donc là, il y a un tournant. On n'est plus forcément que dans la morale. On est vraiment dans la pathologisation, c'est ça?
Exactement,
dans la médicalisation.
Exactement. Et puis, l'alcoolodépendance, ça c'est le terme actuel. Là, on n'est plus du tout dans la stigmatisation. Sauf exception, enfin, vous n'allez jamais trouver un médecin qui va stigmatiser quelqu'un qui est en excès, enfin qui est alcoolodépendant. Et, il a plutôt une approche de victimisation en fait, et donc ça correspond un petit peu plus à notre approche de toute façon des individus qui souffrent, et on a envie de l'aider davantage.
Donc ce rapport, donc ce qui est très intéressant sur la gueule de bois, l'ivresse ou l'alcoolisme, c'est de voir que la manière déjà dont on nomme ce phénomène va correspondre à un rapport à la consommation d'alcool, mais aussi à un certain rapport au corps et à l'individu.
Oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, puisque vous en avez parlé tout à l'heure et puis j'ai pas eu le temps de revenir là-dessus, on peut parler on peut revenir à la Bible et au Nouveau Testament cette fois-ci, avec, d'après l'Évangile selon Saint Jean, le premier miracle qu'aurait commis Jésus. Le premier miracle qu'aurait commis Jésus, il se passe à Cana. Et donc c'est le fameux miracle des noces de Cana. C'est-à-dire que Jésus assiste à un mariage avec sa mère et Mais au bout d'un temps assez long, il n'y a plus de vin. Tout le monde a consommé le vin dans les jars. Et donc la mère vient voir Jésus et lui explique qu'il n'y a plus de vin dans les jars, il n'y a plus que de l'eau. Et donc là, le miracle des noces de Cana, c'est Jésus qui transforme l'eau en vin. Donc ça, c'est essentiel parce que finalement, il donne du vin et d'après la Bible, qui est encore meilleur que celui d'avant, donc on peut imaginer qu'il a été consommé jusqu'au bout par les invités. Il donne du vin aux invités. Et là, on est dans l'ivresse collective, festive, exceptionnelle. Et puis surtout, ce qui est intéressant avec la vie de Jésus racontée dans le Nouveau Testament, c'est que la fin de sa vie publique, finalement, c'est-à-dire la scène, mobilise encore le vin. C'est-à-dire que il explique qu'il faut reproduire ce geste de consommation du pain et surtout du vin pour ce qui nous intéresse, parce que ça représente son sang. Et donc finalement, dans l'Église du Moyen-Âge et puis à la suite, vous avez le vin qui est vu comme une boisson christique qui, symboliquement au moins, va être censé être capable de purifier l'individu. Donc évidemment, si vous êtes le curé à l'issue de votre messe, vous ne pouvez pas stigmatiser, interdire le vin. Enfin, la prohibition, c'est pas possible. Et donc, on est dans un discours finalement ambivalent où la seule juste mesure, c'est la modération. Mais comme on le dit depuis 30 minutes, c'est très compliqué de savoir quelle est la juste modération. Et là, vous avez un curseur qui varie en fonction des années. Vous savez, en 1970, quand pour la première fois, on donne un niveau d'alcoolémie maximale au conducteur automobile, ouais, c'est 1,2 g d'alcool dans le sang.
Ça représente quoi, 1,2 g?
C'est 4-5 verres, enfin c'est 5 verres. Voilà,
après, de quoi, de vin ou d'alcool
oui,
fort?
Oui, voilà, 5 verres de vin. Oui. Et alors qu'aujourd'hui, c'est 0,5. Aujourd'hui, c'est 0,5 et puis ça dépend des pays, parce que vous avez des pays comme la Roumanie où, quand on est conducteur, on n'a pas le droit d'avoir bu une seule goutte de boisson alcoolisée. Donc vous voyez, le curseur varie en fonction de ce que la société est capable d'accepter, d'entendre ou bien en fonction de ce que, on va dire, l'autorité publique, médicale, politique, etc., est capable d'imposer ou souhaite imposer. C'est un rapport... un équilibre, finalement, en démocratie. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad I also fear, the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
France Culture. Sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Et maintenant, qui peut m'expliquer ce qu'est le pastis ? Ganaël ?
Le pastis, c'est une boisson qui est pour les grandes personnes. Mais après, si on en boit trop, comme mon papy, il adore ça. Il en boit plein. Et si on lui sert un peu de pastis, il en boit deux verres quelquefois. Après, on peut devenir pas sous, je crois pas, parce que je sais pas si c'est de l'alcool.
Mais quel âge as-tu, Laurence?
8 ans et demi.
Et c'est bien de boire du pastis à 8 ans et demi?
Non, parce qu'après, quand on grandit, on va avoir l'habitude de prendre du pastis et puis on risque d'être saoul.
D'être quoi?
Sous.
Qu'est-ce que ça signifie?
Ça veut dire partir dans les pommes et on est sous, on est la moitié crevé et puis ça veut dire qu'on dit des âneries, on sait plus où on est, on a la tête qui tourne.
Tu as déjà été saoul?
Non, jamais.
Mais alors j'aime ça, quelquefois quand on met de la menthe, c'est bon aussi le pastis avec la menthe.
Alors apparemment le pastis c'est bon avec la menthe, moi personnellement je n'ai jamais goûté, mais cette petite fille oui, c'était dans une archive, un reportage de TF1 du 27 avril 1980. Vous parliez Mathieu Lecoutre de ce curseur qui était placé différemment en fait selon les lieux et les époques, ce curseur, ce juste milieu entre répression ou acceptation de l'alcool. Est-ce qu'il y a eu des périodes plus ou moins répressive dans l'histoire? Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec ces taux d'alcoolémie qui doivent être de plus en plus faibles, est-ce qu'on est dans une période répressive face à l'alcoolisme, face à l'alcoolémie ou l'alcoolisme?
Oui, alors, si vous le permettez, j'aimerais rebondir sur le son.
Oui, bien sûr.
Et après, répondre à votre question sur la répression. Donc, le son qui évoquait le pastis. En fait, bon, et finalement, bon, ça va rejoindre votre questionnement. Le pastis, donc, si on reprend les cartes murales de scolaires, en fait, on voit que ça fait partie donc des boissons distillées dangereuses. Et donc, ça a toujours une image plutôt négative, sauf chez le grand-père, donc quelqu'un, finalement, qui a connu cette période-là enfant. La deuxième chose, c'est que la période la plus répressive finalement en France contre l'alcoolisme, c'était le régime de Vichy. C'était à partir de 1940 et au début de la 4e République, c'est-à-dire l'immédiat après-guerre. En 1940-41, le maréchal Pétain fait passer des lois qui interdisent la production et la consommation de boissons qui titrent à plus de 15 degrés. Alors, bon, il faut remettre dans le contexte de la révolution nationale de Pétain, mais peut-être que ça évoque quelque chose aux auditeurs. Mais il y a une affiche très connue du régime de Vichy où on voit la France sous forme de maison qui est en train de s'effondrer, et pour diverses raisons. Et donc, évidemment, on voit le bolchevisme, les francs-maçons, les juifs, etc., et le pastis. Et donc c'est censé symboliser ce pastis, l'esprit de jouissance que stigmatisait le maréchal Pétain. Donc pendant l'occupation et jusqu'en 1951, sauf au marché noir, on n'a pas le droit de boire du pastis. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour la petite histoire, que le pastis s'appelle pastis 51. C'est pas qu'il titre à 51%, il titre à 45%. C'est que c'est l'année de retour du pastis consommable par les Français.
Oui, donc le pastis a une histoire vraiment particulière et le miroir justement de la répression de l'alcool en fonction de l'histoire. Mais cette répression dont on parle, Mathieu Lecoutre, est-ce que elle a été plus ou moins intense à certains moments de l'histoire, mais est-ce qu'elle a pris des dimensions différentes? C'est-à-dire que on imagine que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un côté, une dimension presque de désintoxication, de purification des mœurs, de régénération en fait du peuple. Oui. Est-ce qu'avant c'était plutôt ciblé non pas collectivement, mais plutôt face à certains individus, c'est-à-dire purifier la société de certains individus en particulier?
Alors, en fait, il faudrait remonter à 1536. 1536, on est lors du règne de François Ier, et c'est la première fois qu'en France, on a une loi, alors qui s'appelle Édit à l'époque, qui interdit l'ivresse et l'ivrognerie dans le pays. L'ivresse publique et l'ivrognerie dans le pays. Alors c'est une loi très intéressante, si vous permettez je la développe un petit
oui,
peu et
sûr.
Après on va voir si elle a été appliquée. En fait cet édit prévoit quatre sentences contre les enivrés. Lorsque l'on surprend un individu, homme ou femme, enivré dans la rue, les forces de l'ordre sont chargées de l'arrêter, de le mettre en prison au pain et à l'eau. En fait, il doit cuver, c'est une sorte de moment de désintoxication. Si jamais il est récidiviste, parce que François Ier a tout prévu, il se dit bien que ceux qui ont bu une fois boiront de nouveau. Mm-hmm. S'il est récidiviste et qu'on le reprend en flagrant délit, il faut le remettre en prison et là on le fouette. Cette fois-ci. La troisième fois, il prévoit une troisième fois, on le fouette, mais en public. Donc ça doit servir d'exemple.
Ah, il y a une gradation.
Une gradation. Et la quatrième fois a lieu un essorillement. Essorillement, c'est-à-dire qu'on doit couper les oreilles de l'infâme ivrogne. Puisque là, on peut dire ivrogne, puisqu'il s'est enivré plusieurs fois. Alors on pourrait se demander pourquoi couper les oreilles, on ne boit pas par les oreilles.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander.
Alors, c'est intéressant, parce qu'en fait, on boit par la gorge. La goula, ça donnait la gourmandise. Le problème, c'est que si on coupe la gorge, évidemment, on tue l'individu. Donc déjà, ça, pour François Ier, c'est aller trop loin. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ce crime, puisque c'est criminalisé, ce crime de l'ivresse comme un crime très grave. C'est plutôt un crime intermédiaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien couper? Bon, pourquoi pas les oreilles? Parce qu'on, alors moi, ce que je comprends ça ainsi, c'est-à-dire que l'individu n'a pas écouté les remontrances, les conseils qu'on lui a donnés.
C'est voilà. Comme quand on tire les oreilles, en fait.
Ah, je sais pas, mais en tout cas, moi, dans mes recherches historiques, sur plus de 3 siècles, hein, je n'ai jamais trouvé un seul individu en France, dans l'Ancien Régime, arrêté parce qu'il était ivre, mis au pain à l'eau parce qu'il était ivre. Et évidemment, j'ai jamais croisé dans mes archives des sorciers. Ce qui est surprenant, parce que cette loi, elle est toujours applicable jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Jusqu'en 1789, on a des jurisconsultes qui expliquent que les juges peuvent appliquer cette loi-là. Peuvent, et permettez-moi juste de finir, c'est-à-dire que les juges ne l'appliquent pas. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où le roi édicte une loi, mais qui est inapplicable. Et vous savez, enfin, l'Ancien Régime, malgré certaines représentations qu'on peut avoir de lui, c'est pas un régime très autoritaire. C'est-à-dire que le roi n'a pas forcément les moyens de sa politique, et donc il ne surveille pas tout ce qui se décide dans les tribunaux de son royaume. Et donc on a une sorte de tolérance et une sorte de résistance, on pourrait dire, de la population à cette loi qui, de toute façon, n'est pas remobilisée par François Ier, parce qu'il se dit bien que peut-être qu'au bout de 10 ans, la moitié des Français n'auraient plus d'oreilles.
Oui, et est-ce que c'est aussi la preuve de l'échec, de toute façon, de n'importe quelle politique de répression de l'alcool ?
Alors moi, c'est nuancé, ça dépend de la politique en fait. Celle-ci en l'occurrence, c'est un échec. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça, François Ier? Puisque quand on est souverain, on n'a pas envie de produire une loi qui n'est pas appliquée. Bon, j'ai montré qu'en fait, ça fait partie d'un contexte de réforme du christianisme avec des protestants qui expliquent que les catholiques vivent mal, ils sont dans l'excès, et donc François Ier réagit en fait à chaud, une sorte de réaction épidermique, comme Charles Quint d'ailleurs au même moment dans l'Empire, mais c'est pas appliqué ni dans l'Empire ni chez nous. Alors, la politique, est-ce qu'elle est inefficace contre l'alcoolisme? En fait, ça dépend, parce que François Ier et les successeurs de François Ier, Henri II, etc., vont, à partir du moment où ils constatent que cette politique de 1536 n'est pas vraiment applicable, ils vont pas l'interdire, mais ils vont attaquer indirectement les buveurs. C'est-à-dire qu'ils vont encadrer les horaires d'ouverture des débits de boissons. Ils vont réduire ou interdire l'ouverture des débits de boissons le dimanche, jour sacré. Jour du Seigneur. Et ça va être une sorte d'attaque indirecte. Et finalement, on est un peu dans cette logique-là. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, on laisse les individus boire s'ils ont envie de boire. En fait, c'est une forme de liberté individuelle, de libre arbitre. En revanche, on attaque les individus qui s'enivrent sur 2 points, selon 2 axes. Les femmes enceintes. Les femmes enceintes qui, selon la morale qui domine aujourd'hui, n'ont pas le droit de
boire.
De boire, oui, mais pour les conséquences que ça peut avoir pour le fœtus. En fait, c'est plus pour le fœtus que pour elle que ça importe.
Oui.
Et le conducteur ivre. C'est-à-dire que le conducteur ivre risque de provoquer des morts qui n'ont rien demandé. Et on trouve ça injuste. Et là, vous avez la société qui retrouve les médecins, qui retrouve les politiciens et en accord... Qui se trouve d'accord pour lutter contre ces conséquences indirectes, finalement, de l'ivresse.
Mais dans cet échec dont je parlais des politiques de répression, par exemple celle de François Ier, mais on peut aussi parler de la prohibition, par exemple, oui. Qui a effectivement n'a pas arrêté la consommation d'alcool, mais au contraire a contribué à un trafic d'alcool, voilà, illégal, très Exactement. Coûteux, très dangereux. Mais ce qui prouve bien aussi que derrière cette gueule de bois et derrière ce rapport à l'ivresse se cache aussi la volonté, la tentation en fait des politiques de contrôler l'individu, mais qui se choque, qui échoue à chaque fois parce qu'il est impossible de contrôler tous les individus. C'est-à-dire que couper toutes les oreilles de tous les individus devient une mission impossible. Est-ce que ça révèle pas ça aussi, en fait, cette histoire de l'ivresse ?
Alors, c'est sûr que si on a un politicien qui veut réduire cette consommation, en fait, il pénètre dans l'intime des oui. individus. Voilà. Donc là, ça ne fonctionne pas, en fait. Alors, pour la prohibition, ce qui est intéressant dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis, c'est que ça a été pensé et appliqué pour moraliser la société. Puisque, évidemment, on pense que quand on s'enivre, notamment au whisky, il peut y avoir des conséquences négatives. On retrouve le vieux péché qui en entraîne d'autres, en fait. C'est-à-dire le péché de gourmandise qui entraîne un péché d'impudicité, etc. Et là, paradoxalement, enfin ils s'en sont aperçus rapidement, cette interdiction de la consommation d'alcool, un, n'empêchait pas de consommer de l'alcool, et en plus, criminalisait encore plus la société et enrichissait des individus qui produisaient, qui continuaient à produire et à vendre cet alcool-là. Voilà. Je ne sais plus ce que vous m'aviez demandé juste après.
Non, mais cette manière justement de dire que voilà, la répression, l'échec de la répression de l'alcool montre bien aussi que c'est un échec de vouloir contrôler tous les individus, que cette histoire de l'ivresse nous révélait justement c'est à chaque fois cet échec renouvelé de vouloir à tout prix normaliser des comportements.
Oui, et puis même dans des états totalitaires, on n'a jamais interdit cette consommation d'alcool. Enfin, dans l'URSS, justement, en fait, les individus
au contraire sont
beaucoup.
Cimentés par l'alcool.
En partie, en fait. C'est en fait l'alcool, ça peut être un antidépresseur, en fait. Hein. Ça peut jouer le rôle d'antidépresseur, et ça, c'est connu de tous. Voilà. Ça peut être une échappée belle pour celui qui s'enivre, mais ça peut être un antidépresseur. Ouais.
Attends, avant de souffler ta bière.
Santé.
Oh, franchement, Martin, il est trop bon. Dommage que t'aies décidé d'être sage.
Santé.
C'est vrai que c'est dommage, mais on devrait plutôt se demander si la sagesse est raisonnable.
Attention, là, je sens qu'il va nous pendre une thèse.
Tu veux pas faire relâche ce soir ?
Mais attendez avant de vous emballer. Exceptionnellement, le raisonnement n'est pas de moi, mais d'un psychiatre et philosophe norvégien. Hein ? Finskorderud, il s'appelle.
Attends, là, je suis
Je vous la donne. Selon ce psychiatre, on peut tout à fait boire.
Boire avant de prendre le volant ?
Non, boire tout le temps. Il dit que l'homme est né à moins 0,5 grammes d'alcool par litre de sang.
Moins 0,5 ?
Ah, c'est vrai. Vous trouvez pas ça intéressant ?
Oh. Attends une seconde, je comprends. 0,5 grammes, ça correspond à quoi exactement ?
C'est un ou deux verres de vin. Et ce qu'il faut, c'est maintenir le taux d'alcoolémie à 0,5
grammes. Ah ouais ?
Ouais.
Non, mais attends, pour maintenir ton taux, tu dois boire tout le temps.
C'est ça. D'après ce psychiatre, si on parvient à maintenir ce taux de 0,5 par litre de sang...
Ouais.
On est deux fois plus détendu, moins stressé par le monde qui nous entoure. On a plus la patate, on est plus sensible à la musique, plus ouvert. Et plus courageux, en définitive.
Moi, ça me va bien. Je suis preneur pour avoir davantage confiance en moi et pour avoir un peu plus de...
C'est vrai, on rêve tous d'être mieux dans ses pompes, non ? Et d'ailleurs, il est peut-être là, ton problème en cours, Martin.
Peut-être avez-vous vu, Mathieu Lecoutre, ce film de Thomas Vinterberg, Drunk, dans lequel, donc on l'entend, hein, on est défendu et mis en application par quatre amis la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme devrait pallier le déficit d'alcool dans son sang, parce que l'alcool permet justement d'être plus à l'aise, plus courageux, plus enclin à entendre la musique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une construction, là pour le coup, pas seulement individuelle, mais aussi sociale, de « on a besoin d'alcool pour être bien ensemble, n'importe quelle festivité, n'importe quel banquet nous permettra, sera réussi grâce à l'alcool ».
Alors oui, par rapport à ce film, en fait, deux choses. La première chose, c'est, on l'entend, l'un des acteurs le dit, en fait, l'alcoolisme, en fait, et la quête d'alcool, c'est, on peut la caractériser comme étant une sorte de maladie des émotions. Et l'alcoolique ou l'alcoolodépendant, en fait, il est malade de ses émotions. Et il croit trouver dans l'alcool un moyen de résoudre un problème émotionnel. Et qui finalement, s'il reste dans l'alcool, va générer d'autres problèmes encore plus graves. Première chose. Deuxième chose, dans cet extrait, en fait, on voit un lien avec ce que j'appelle, moi, l'ivresse créative ou transcendantale, qui a toujours été présente, en fait, depuis les Grecs, l'Antiquité grecque, dans la culture occidentale. C'est-à-dire l'idée que avec l'alcool, avec le vin, enfin, initialement, on va pouvoir créer, on va pouvoir rejoindre le divin. C'était cette vision-là qui dominait, notamment dans le rapport à Dionysos. À l'époque de la Renaissance, les humanistes tels que Rabelais, le Lyonnais Rabelais, expliquent, alors sous forme de boutade ou littéraire, mais que de vin, divin on devient. Et puis ça se poursuit au XVIIIe siècle avec d'autres poètes qui pensent mieux créer lorsqu'ils sont sous l'emprise du vin. C'est notamment le groupe du Caveau avec Panard, avec Crébillon, qui se retrouve dans un petit cabaret du centre de Paris, et qui se récite des poèmes, qui note, qui juge les poèmes des uns et des autres. Si jamais c'est mauvais, ils boivent de l'eau. Si jamais c'est bien, ils boivent du vin. Et on sait que Panard, lui, n'a jamais réussi à sortir de ce cycle-là, puisqu'on estime qu'il devait boire 6, 7, 8 litres de vin par jour. Et là, il était devenu complètement ivrogne. Et puis pour finir, est-ce que c'est le signe de la festivité réussie? Alors ça dépend. En fait, historiquement, oui. Et de nos jours, la jeunesse, parce que la jeunesse fait davantage la fête que le monde adulte, la jeunesse attache moins d'importance à la consommation d'alcool lorsque déroule une fête qu'auparavant.
Voilà. Mmh. Donc ça veut dire qu'on est plus attaché à la consommation d'alcool maintenant qu'avant, c'est ça?
Non.
Que les jeunes sont plus...
Non, ce que je voulais dire, c'est que lors des fêtes, contrairement à ce qu'on pourrait penser médiatiquement, lors des fêtes, la jeunesse ne s'enivre pas forcément plus qu'auparavant. Il faut quand même pas oublier, c'est ce qu'on a vu, on a commencé par ça, c'est que la jeunesse, avant, jusqu'aux années 1950, buvait des boissons alcoolisées tous les jours. Et il faut pas oublier que jusqu'en 1981, dans les lycées, les lycéens ont le droit à avoir un verre de vin. À la cantine le midi. Voilà. Donc l'habitude de consommation d'alcool a été beaucoup plus importante avant qu'aujourd'hui. Elle est beaucoup plus rare.
Aujourd'hui, est beaucoup plus rare, mais ce qui veut dire aussi que le moment où on va connaître l'alcool va être un moment presque une sorte de rite. C'est beaucoup moins banalisé. Alors, ça devient un rite qui se fait non plus dans des institutions, mais en dehors. D'ailleurs, maintenant, on ne boit presque plus au travail. Enfin, en tout cas, peut-être hors repas d'affaires, un petit peu institutionnalisé, mais on ne boit plus au travail. On boit en dehors du travail. On fait des after work, des apéros du soir. L'apéro du jeudi, par exemple, c'est toujours en dehors du travail, en dehors des études. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de, justement du loisir, mais aussi quelque chose de l'ordre du rite de passage pour un ado ou un jeune.
Oui, en fait, vous avez raison. En fait, aujourd'hui, 90% des Français expliquent qu'ils prennent l'apéro. Voilà. Ils prennent l'apéro, donc en fin de semaine, donc ça peut être
dès le jeudi en général, non ?
Ou dès le jeudi si on est étudiant, voilà, pourquoi pas. Alors que dans les années 1980, il n'y avait que 40% des Français qui prenaient l'apéro. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez fréquent et c'était relativement rare. Pourquoi ? Parce qu'avant, on buvait à table, en fait, quasi tout le temps. Aujourd'hui, il n'y a plus que 15, 16, 17% des Français et des Françaises qui boivent tous les jours. Et ces 16, 17%, ce sont des personnes souvent de plus de 65 ans qui viennent de la culture d'avant, finalement.
Mmh. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'en fait, on a à peu près la même consommation d'alcool, mais pas de la même manière, ou au contraire, on consomme moins d'alcool?
On consomme bien moins d'alcool qu'auparavant. En fait... on a un premier pic de consommation. Ah bon, alors tous les chiffres sont compliqués à obtenir avant 1945. Ce sont des évaluations. Mais on pense qu'il y a un premier pic au 19e siècle autour de 1875. Voilà. Où là, on estime que les Français boivent en moyenne 200 litres de vin par an par habitant. Et puis voilà, on est à un pic. D'ailleurs, c'est pas surprenant. C'est le moment où se créent les premières sociétés de tempérance, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui anti-alcoolique, etc. Pour essayer de résoudre ce fléau social, enfin ce qu'on voit comme un fléau social. Ça, c'est un premier pic. Le deuxième pic, après il y a des hauts et des bas. Le deuxième pic, c'est plutôt dans les années 1960, où là, on est autour de 100 litres de vin par habitant et par an. Et aujourd'hui, on est seulement, par rapport à la longue durée, à 40 litres. Voilà. 40 litres de vin par an par habitant. Et après, si on prend en compte tout l'alcool, hein, et qu'on essaie de voir le volume d'alcool pur, le français est dans une moyenne européenne, c'est-à-dire qu'il est autour de 10-11 litres d'alcool pur par an par habitant adulte, c'est-à-dire voilà, comme nos voisins finalement. Donc en fait, on a véritablement un recul de la consommation de boissons alcoolisées, qui se retrouve en revanche plus concentrée dans des moments.
Oui, voilà, voilà, c'est ça. Donc il y a les moments maintenant de fêtes, va y avoir des, en fait c'est presque le, on a beaucoup parlé de cette pratique, maintenant je pense qu'elle est plutôt stabilisée, c'est la pratique du binge drinking, c'est-à-dire en fait on boit très vite beaucoup pour être le plus vite ivre possible. Est-ce qu'on a plus maintenant ce rapport là à l'alcool, boire beaucoup le samedi, c'est-à-dire on va vraiment se mettre une énorme mine alors qu'avant on buvait un peu tout le temps.
Alors ce qu'il y a, c'est que ce binge drinking, il est compliqué à aborder puisqu'il a été très médiatisé. Il a été très médiatisé parce que justement, c'est ce que vous disiez, la première consommation de vin, de bière ou la première ivresse, elle n'a souvent plus lieu en famille. Avant, jusqu'aux années 1950, un enfant commençait à boire à partir de 7 ans.
À table avec ses parents, en fait.
C'était 7 ans. Mmh. C'était le rite de passage. Aujourd'hui, c'est 15 ans. C'est le moment où il quitte le collège, il arrive au lycée, etc. Donc c'est quand même un rite de passage pour lui, ouais. Mais entre copains finalement, entre amis. Et sans la surveillance théorique d'un adulte. Et donc ça peut donner évidemment la volonté à cet adolescent. Bon, l'adolescence, il se construit aussi en partie contre ce monde adulte, hein, ce monde adulte qui explique qu'il sait bien boire, qu'il est raisonnable, etc. Donc l'adolescent peut se construire contre cela et boire très rapidement en cachette avec ses amis ou très rapidement donc le samedi soir pour essayer d'être le plus discret possible finalement. Alors évidemment, sont médiatisés des cas dramatiques de coma éthylique, oui. Mais il semble que cette situation, cette pratique, donc qui viennent des États-Unis surtout, elle ne concerne pas plus de 10% des 25-34 ans. Et chez les 15-24 ans, 4-5% seulement, entre guillemets, finalement. Donc c'est pas ainsi que, c'est pas la manière de boire dominante de la jeunesse en France aujourd'hui.
Merci beaucoup Mathieu Lecoutre. On va se quitter donc sur ce rapport à l'alcool des jeunes. De vous, on peut lire, alors je l'ai dit en début d'émission, donc je le rappelle, Le goût de l'ivresse, boire en France depuis le Moyen-Âge, 5e, 21e siècle, paru aux éditions Belin. Ivresse et ivrognerie dans la France moderne, coédition Presse universitaire François Rabelais, Presse universitaire de Rennes. Et puis enfin, je signale l'Atlas historique du vin en France de l'Antiquité à nos jours aux éditions Autrement. Et enfin, vous avez dirigé l'ouvrage L'ivresse entre le bien et le mal de l'Antiquité à nos jours aux éditions Peter Lang. Merci beaucoup Mathieu Lecoutre.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12,5 degrés. Je bois la pire des vinasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. Oh, la vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Prochain jour du terme, je bois systématiquement.
Merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand et Laure d'Alest. Réalisation Louise André, prise de son Alex Dang et Claire Vuillon à Radio France Lyon. Merci pour le duplex. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram et bien sûr sur le site de France Culture, à la page de Sans oser le demander ou encore bien sûr sur l'excellente application Radio France. À demain.